Le mythe de Garibaldi se fonde sur des éléments simples, comme l'affirme Philippe Gutte. Lorsqu'il écrit, Garibaldi n'est pas un homme ordinaire, et d'abord dans son apparence. Son bonnet calabraise, son poncho, sa chemise rouge, voilà ce qu'on retient en premier lieu, l'aspect pittoresque, voire exotique du personnage. C'est un aspect qui s'affirme tant pour la légende positive qui pour la légende négative, noire. Et à côté de cet aspect extérieur, on trouve en lui un profil de vertus et de qualités personnelles comme le courage, la générosité, la simplicité. C'est avec ces caractères que le mythe de Garibaldi s'impose, ou pour mieux dire ses formes de 1845-46 à 1847 avant tout, à savoir avant son retour de 1848 en Italie, où il aura l'occasion de l'alimenter ultérieurement. La presse internationale le relance de l'Amérique du Sud à l'Europe et naturellement à l'Italie. Elle le relance là où est aussi présent une culture prête à reconnaître en lui les héros, comme l'affirme Lucie Réal. Dans l'Italie de cette époque, le personnage que Garibaldi représente est bien accueilli dans toute la presse démocratique et modérée. Ça, c'est une question importante pour moi. Démocratique et modérée. C'est pourquoi la thèse de Lucie Réal, qui estime que Garibaldi a été inventé par Mazzini et la presse qui lui est proche, me semble difficile à soutenir. Certes, Mazzini joue un rôle dans l'opération d'inventer Garibaldi, mais les débuts de ces personnages présents, dès le début, présentent des caractères plus complexes que l'on ne peut pas reconduire aux classifications politiques et idéologiques traditionnelles. Alberto Mario Banti a parfaitement démontré que le modèle d'idéologie nationale italienne, à ses débuts, est unique dans sa structure et compte sur une collection de références qui définissent un ensemble d'œuvres patriotiques communes à tous les systèmes idéologiques. Pour immédiatement anticiper ma thèse, j'y crois pouvoir affirmer que l'inventaire de Garibaldi est en réalité Garibaldi lui-même et que la structure fondamentale du mythe garibaldien réside dans la rencontre entre l'idée de virilité et la nation. Dans ces rapports, le fait d'être reconnu comme les héros Garibaldi n'est pas seulement dû à l'identité entre sa personnalité relancée par les journaux et l'expectative du héros, comme on l'a déjà souligné, mais surtout à l'adhésion de sa figure de combattant et de militaire à la contemporaine maturation d'une culture patriotique italienne. Il s'agit d'un processus qui se réalise naturellement dans les sillages de l'expérience sud-américaine à Montevideo et surtout avec la République romaine de 1849. Or, cette culture militaire, au caractère spécifiquement italien, se réalise essentiellement à travers une comparaison continue avec la tradition militaire française. Et les rôles militaires et politiques que la France joue, dans cette époque. C'est à la tradition napoléonienne que je pense en premier lieu. C'était les officiers de l'armée de Bonaparte qui avaient associé l'idée de l'homme libre et combattant à la renaissance des vertus du légionnaire romain, de la grandeur antique, contre la décadence du moment due à la disparition des vertus militaires. Lambert, le commandant des troupes françaises qui occupaient Faenza, c'est une petite ville, à côté de Bologne, incitait les citoyens et la garde civique réunis sur la place en 1797 et les rappelait à leur devoir de défendre la liberté retrouvée en leur criant « Romains, relevez-vous, vous êtes dignes d'une meilleure sort. » Si l'on pense à la surprise des habitants de Faenza qui s'entendaient appeler Romains, cela peut nous faire sourire, mais la surprise mise à part, l'ère napoléonienne pénétrait dans les mœurs, créant des nouveaux rites, comme par exemple la redécouverte des tournois et des joutes chevaleresques. C'était certainement une façon de populariser les services militaires. Mais les tournois ne seront pas abolis par la Restauration, et cela devrait faire réfléchir, car n'est pas un hasard si la littérature patriotique italienne, en grande partie se développant à l'époque de la Restauration, utilise le lieu de compétition chevaleresque. On y rencontre également des faits individuels cités par la presse, comme le cas du duel entre Lamartine et Gabriele Pepe, qui a eu lieu à Florence en 1826 et qui fut provoqué par des vers de Lamartine que le colonel Pepe, exilé napolitain, jugea offensif à son égard. Dans le dernier chant du pèlerinage d'Harold, publié à cette époque, Lamartine avait fait dire à son héros Byron, alors qu'il quittait l'Italie pour aller se battre et mourir en Grèce, « Terre où les fils n'ont plus le sang de leurs yeux, je vais chercher ailleurs, pardon, ombre romaine, des hommes et non pas de la poussière humaine. » Pepe dénonça l'injure dans une brochure qu'il fit publier. Il s'ensuit un duel au cours duquel Lamartine fut blessé en bras. Mais sur le même sujet, nous trouvons aussi la pièce de théâtre la plus célèbre dans toute la littérature patriotique italienne, c'est Le défi de Barletta, on l'a beaucoup cité hier, que Massimo D'Azeglio écrivit en 1833. Comme l'on sait, l'histoire se déroule à Barletta en 1503 et met sur la scène un duel entre deux groupes de cavaliers français et italiens. Ces derniers commandés par Fiera Mosca. Il s'agissait d'un défi dû au fait qu'un cavalier français avait estimé que les Italiens ne savaient que tramer des trahisons mais ne valaient rien à la guerre. Les Italiens alors voulurent se venger de l'offense. Et sur ce, on pourrait continuer à énumérer bien d'autres cas. Ce qui donne une importance particulière à ce thème culturel qui finira par s'intégrer au personnage de Garibaldi, c'est que si l'Autriche, pour l'Italie, représente l'ennemi numéro un, l'avant-soeur barbare, hein, la France n'assumait absolument pas cet aspect, même lorsqu'elle s'est trouvée dans les camps adverses. Il semble difficile à des patriotes de devoir démentir l'image de la France libératrice, mûrit à l'époque des républiques sœurs. Les républiques sœurs sont les républiques créées par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. C'est de là que vient cette particulière sensibilité et cette réactivité de l'idéologie nationale italienne envers l'opinion française qui devient avec le temps de plus en plus aiguë au moment où s'approchent les tournants conduisant de la révolution passive à la révolution active du Risorgimento italien. Et cette confrontation révélée aussi par de nombreuses œuvres artistiques et littéraires dans les premières décennies de la Restauration se transforma en émulation et en rivalité militaire effective dans les années 40, après qu'en Amérique du Sud, la Légion italienne, commandée par Garibaldi pendant la défense de Montevideo, se trouva à coude à coude avec la Légion française, bien plus forte et mieux organisée, qui disposait aussi d'un journal. C'est là que se forma l'identité d'un Garibaldi combattant pour la liberté. Il s'agissait là d'un passage essentiel parce qu'il constituait bel et bien, pour les Italiens, un véritable tournant. Ceux-ci ne se trouvaient plus engagés au service de Napoléon, mais au service d'eux-mêmes en tant qu'Italiens, selon une idéologie garibaldienne résumée en ces quelques mots d'ordre. Préparons-nous aujourd'hui pour la future guerre d'indépendance. Italien. Et le Garibaldi qui s'est préparé à interpréter un rôle de héros destiné à commander des volontaires, mettant sa biographie dans les mains de Dumas, s'est placé sous une espèce de signe du destin. Il serait né dans la même chambre où Masséna avait vu le jour. Je ne sais pas si elle est vraie, mais ça c'est la légende. En outre, il se serait converti à la politique après avoir rencontré Barol, ça c'est, on le sait, hein, et les disciples de Saint-Simon. Il aurait donc reçu une identité militante d'homme d'armes et d'idéologue. À ce point, il ne me semble pas bon de revenir sur des problèmes déjà débattus, comme ceux qui devraient analyser combien de Massigny et combien de Saint-Simon il peut y avoir dans la première idéologie politique de Garibaldi. Ce qui me paraît essentiel, c'est sa physionomie concrète des combattants pour la liberté que peu à peu il trace, physionomie où règne une solide cohérence interne. Sans parler de ce qu'on dit Cuneo, Dumas, Carrara ou l'album Storico Artistico, c'est une œuvre qui est officielle, publiée par les Garibaldiens après l'emprise, l'expédition des Mille. Ou d'autre encore, ce qu'il faut souligner, c'est l'adoption d'une liste de valeurs, pour ainsi dire, fixes, qui nous pousse à affirmer que justement c'est Garibaldi qui a créé Garibaldi, à savoir son original synthèse des chefs populaires et d'hommes d'art. Parce que s'ils avaient inventé, eux, Cuneo, Dumas, Cara, il n'y avait pas ce système fixe de valeurs, donc c'est Garibaldi qui le fait. Autrement, il serait différent. C'est Garibaldi qui nous téléphone pour confirmer ma thèse. Et j'y suis, j'y remercie beaucoup. Garibaldi. Oh, je sais rien. C'est la technologie qui est indépendante de notre pouvoir. C'est pas, nous ne pouvons plus rien faire. Garibaldi se devrait lui-même se décrivait. Garibaldi se décrivait lui-même en des termes surhumains, tout en soulignant un héroïsme démocratisé, à la portée de ceux qui, possédant une foi solide, ne craignaient pas la mort. En tant que leader charismatique, conscient de son bel aspect, qui l'aidait à se faire obéir par une troupe de gens de toutes sortes, il savait doser la sévérité et l'indulgence avec ses subordonnés, auxquels il s'adressait en des termes d'égalitarisme et de reconnaissance. Courageux et déterminé. Il savait se montrer généreux envers ses ennemis, vaincus ou prisonniers, et même envers leurs familles. Il va sans dire que de tels comportements faisaient énormément ressortir la force de sa valeur humaine dans un climat de guerre extrêmement féroce. Comme l'a raconté Dumas à propos de la lutte armée menée par Rosas contre les habitants de Montevideo, on ne faisait pas de prisonniers, et les corps des ennemis ou leurs parents subissaient les mêmes dévastations et les mêmes ravages que leurs biens. Et Dumas a cité longuement le témoignage du capitaine Pedro Toses, qui avait assisté personnellement à tous ces événements. Parmi les prisonniers que les troupes de Rosas avaient capturés au cours de la bataille d'Arroyo Grande, 556 hommes furent décapités, prisonniers décapités. Devant un tel panorama de cruauté ressortait le comportement de Garibaldi qui n'agissait pas selon des logiques militaires, mais selon son idéal, la défense des plus faibles et de la République uruguayenne. C'est pour cette raison qu'il vécut en pauvreté, préférant la frugalité pour lui et pour les siens, signe d'une intégrité qui ni l'argent ni la brique du pouvoir ne pouvaient entamer. Sa force résidait dans la foi, si bien qu'il savait ressusciter des naufrages et des tortures, émerger de nouveau des eaux, après avoir sauvé des vies humaines en danger, ne pas céder à l'ennemi, mais tirer le mieux de chaque situation. À la main fondamentale d'un couple amoureux, il voyait sa femme participer au combat, en tel point que son premier fils naquit avec une cicatrice sur l'écran, encore une légende, sa mère étant tombée de cheval. Pas si soit possible, mais selon une anecdote bien connue, sa famille vivait modestement, souvent dans l'obscurité à la maison, faute de chandelles. S'agit-il donc d'un personnage des romans? Bien sûr que oui. Et même Garibaldi en était conscient, et c'est comme tel qu'il parlait de lui-même. D'autre part, en sa qualité de commandant de la Légion italienne de Montevideo, Garibaldi s'est trouvé dans la nécessité de créer l'unité d'une formation militaire qui souffrait de ne pas pouvoir s'appuyer sur une solide tradition nationale. Comme l'a bien compris Alfonso Sirocco, le corps militaire n'était pas composé de vétérans, mais de jeunes ouvriers, de marchands, d'agriculteurs, de son exil suisse. Filippo de Bon, écrivain massinien, le voyait tout galvanisé par une grande idée, certainement dictée par Garibaldi. C'était la suivante. Vous êtes ici, dans ces coins du Nouveau Monde, en tant que représentant des gardiens de l'honneur italien. Hein, c'est ça la politique. C'est pas un programme. C'est quelque chose un peu d'anthropologique, hein, l'honneur. Devenir viril, devenir homme. Même Dumas en était conquis, qui n'hésitait pas à intervenir dans un brillant essai sur la lutte délicate en cœur à Montevideo, où les légions armées européennes, et en particulier françaises et italiennes, étaient considérées par l'auteur parfaitement égales pour la défense de la civilisation contre la barbarie des régimes despotiques, comme le régime argentin de Rosas. Dumas accusait le gouvernement français de ne pas soutenir la Légion française et faisait de Garibaldi les héros de cette internationale de liberté. Surtout après la victoire de Sant'Antonio del Salto en février 1846, lorsque ces hommes s'imposèrent aux ennemis bien plus nombreux, remportant une victoire hautement célébrée par le gouvernement uruguayen. En vérité, l'essai de Dumas s'insérait dans une polémique qui avait éclaté dans les journaux anglais et français contre la Légion italienne et Garibaldi lui-même, défini dans certains articles et surtout dans les journaux de débat parisiens et favorables au gouvernement, en pirate, consacré au pillage. Ils accusaient la Légion italienne d'indiscipline, de lâcheté, de brutalité, de tendance à la trahison et à la désertion. Garibaldi, de son côté, avait opéré avec une grande souplesse. Dès 1845, lorsqu'il était à la tête de la flotte uruguayenne, il avait agi avec les forces navales franco-anglaises, les aidant à s'emparer du port uruguayen de Colonia et l'île de Martin Garcia. D'autre part, il avait noué des rapports personnels avec d'importants personnages grâce aux charges qu'il avait occupées à Montevideo. En août 1847, le comte Walewski, futur ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, les définissait égal aux meilleurs maréchaux de France. Après la victoire du Salto, l'amiral Lenné lui présenta ses compliments, faisant allusion à l'armée de Napoléon Ier. Il lui dit: les soldats de la grande armée qui pendant longtemps tirent en échec l'Europe entière auraient été orgueilleux de lui, Louis Garibaldi. Il lui révéla aussi dans une missive que le baron de Fody le défendrait auprès des gouvernements de Paris pour contrebalancer les impressions défavorables que pourraient provoquer certains articles des journaux rédigés par des personnes peu habituées à dire la vérité, même lorsque les faits se sont déroulés sous leurs yeux. Les révolutions de 1848 déterminent un tournant dans le processus de maturation d'une culture militaire et patriotique italienne. La tradition napoléonienne, cependant, au lieu de s'orienter sur un personnage militaire de profession, trouve en Garibaldi un interprète spécial. Il s'agissait d'un homme du peuple, plus volontaire que soldat et qui ne porte pas d'uniforme. Un homme qui monta sur la scène internationale quand il défendit la République romaine après que l'armée piémontaise avait été mise de côté par les deux défaites subies contre les Autrichiens à Custoza et à Novare. Ça, c'est important. C'est donc bien Garibaldi qui devait prouver la virilité retrouvée des Italiens, opposé cette fois non pas à l'ennemi historique, les Autrichiens, mais à l'armée française d'Oudinot. Accouru à Rome pour défendre le pape ou pour mieux dire, pour ramener le pape à Rome, hein, vous savez, il était fou, et que ce soit là l'enjeu est confirmé par la polarisation à laquelle devait être soumise la gasconnade attribuée à Oudinot, qui, sous-évaluant la détermination des troupes garibaldiennes, aurait affirmé: les Italiens ne se battent pas. C'est fameux, hein, la sonde. Ces jugements n'avaient rien de particulièrement offensif. Il faisait partie du jargon des défis militaires. L'écrivain et homme politique anglais Horace Walpole l'avait déjà employé contre les Français lorsqu'il affirma justement que les Français peuvent se servir d'un poignard, mais ils ne savent pas se battre. Alors, dire cela aux Italiens en 1849, alors qu'en réalité, les Italiens n'existaient pas encore, pouvait bien signifier qu'on les reconnaissait comme combattants, même si on ne leur reconnaissait pas une valeur d'excellence. Mais c'était quelque chose. Mais ce ne fut pas ce sens-là que les patriotes italiens donnèrent à cette affirmation. Pour eux, ce jugement indiquait sans aucune circonstance atténuante une identité négative qu'il fallait démentir à tout prix, même en recourant au martyr. Dans ce même sens négatif, ce jugement devait reparaître comme un fantasme tout au long de l'histoire de l'Italie unie jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Italie mit de côté ses ambitions expansionnistes. La République romaine de 1849 voyait s'opposer les troupes commandées par Garibaldi aient encore varié d'attaquants. Mais il est étrange qu'encore une fois, la polarisation rhétorique soit axée sur l'armée française. Il est certes vrai qu'entre Garibaldi et Français a eu lieu l'un des combats les plus sanglants, celui qui se déroula près de la porte de San Pancrazio, où les Garibaldiens remportèrent une brillante victoire au début. Mais c'est dans cette confrontation avec la France que l'idéologie nationale italienne insiste sur son devoir explicite d'agir seule, sans aucune aide étrangère. L'Italie, je cite, l'Italie doit le faire, et si elle le veut, elle peut le faire toute seule. C'est son passé qui lui impose, c'est l'importance de sa mission future qu'il exige. Écrivait Cuneo, Massinien et Garibaldien, plus Garibaldien que Massinien. La virilité retrouvée des Italiens, qui était axée sur le personnage de Garibaldi, ne se manifesta donc pas dans l'opposition aux Autrichiens, l'ennemi historique, mais au contraire, dans les combats contre les soldats français. Et bien que cette affaire évolue vers une défaite, il est étrange que l'idéologie de l'épreuve et du combat contient des éléments qui transforment la fuite des Garibaldiens de Rome en un succès. Pour Garibaldi, s'être confronté avec l'armée française constitua un examen et la résistance prolongée aux attaquants représenta déjà une victoire. Dans ses discours, Garibaldi s'est comparé aux héros Ferrucci. Se proclamant un homme qui a toujours dit la vérité, italien mal vendu et dont les titres les plus importants étaient justement de voir surmonter l'épreuve contre l'armée la plus puissante du monde. Le 20 juin 1849, lorsque désormais les trois brèches avaient été ouvertes et que les défenses allaient s'affaiblissant, Garibaldi dit à Dumas, « Ce qui nous était opposé était digne de nous. Nous leur avions déjà fait voir auparavant que les Italiens savent se battre. » Selon l'historiographe Vecchi, qui s'est trouvé sur les champs de bataille, les premières victoires contre les Français constituaient un baptême du sang et du feu. Aujourd'hui, nous avons gagné nos premiers soldats au monde. Dumas ajouta que même lorsque la bataille battait son plein, les fanfares romaines jouaient la Marseillaise, en combattant ce qui, animé par ses hymnes, avait vaincu l'Europe. En 1849, c'est donc dans les personnages de Garibaldi que l'exemple du soldat volontaire acquiert son propre aspect viril. Même si l'on perd, la leçon morale est donnée. Il faut se battre. Mais il n'existe pas de doute envers les ennemis autrichiens, s'il n'existe pas de doute envers les ennemis autrichiens, envers la France, au contraire. On enregistre une réflexion, un revirement au cours de la décennie qui sépare la première guerre d'indépendance de la seconde. La culture démocratique en particulier révèle un certain embarras. Quel rôle faut-il donner à la République française dans le cadre du martyrologe italien? La première élaboration du mythe est le silence. Ato Vannucci, le premier qui rédigea les biographies des héros martyrs, souvent volontaires et soldats de la Révolution italienne, s'arrêta à l'année 1848, avant l'expérience de la République romaine. La grande partie des victimes était attribuée au despotisme autrichien, napolitain, pontifical. Le Panthéon des martyrs de la liberté, c'est une autre œuvre immense, ouvrage rédigé aux plusieurs mains et publié à Turin en 1851, s'est poussé timidement un peu plus loin, même si dans cette œuvre étaient toujours prépondérant les victimes de l'Autriche et du despotisme italien, on y trouvait aussi les victimes les plus célèbres tombées dans les batailles, dans les environs de Rome en 1849. Mameli, Dandolo, Daverio, mais surtout le colonel Manara sont exaltés comme des héros dominés par la présence inspiratrice de Garibaldi, mais en ce qui concerne Manara, tombé sur les champs de bataille contre les Français à Villa Spada, il est considéré comme une victime, je cite, des armées conjurées d'une moitié de l'Europe, par la France. L'unique référence à la France arrive grâce à un artifice rhétorique, comme il suit, sur le rempart de Rome. Le général français ne tarda pas à s'apercevoir de la façon dont combattaient ces Italiens qui ne se battaient pas. C'est une rhétorique pour masquer Ainsi disparaît l'ennemi français en tant que tel. À cet artifice, artifice rhétorique, aura recours également Vannucci en 1880 dans une réédition tardive de ses martyrs où il écrira que ce fut le pape qui, par l'intermédiaire des républicains de France, fit tuer à Rome Goffredo Mameli, etc. Un autre artifice pour parler indirectement des Français réside dans le fait de déplacer le conflit en arrière dans le temps. Par exemple, le panthéon des martyrs fit renaître les souvenirs de Pietro Tellieu, général de division, tombé au champ d'honneur dans les armées napoléoniennes contre les autrichiennes en 1807, mais privé des hommages des bulletins militaires français. Ceci, par contre, insinuèrent qu'il était décédé après avoir longuement dîné, expression malveillante qui aurait voulu faire supposer qu'il était mort à cause de ses libations immodérées. Or, le Panthéon des martyrs concluait sa biographie en affirmant que Tellieu détestait les vents. Il s'agissait là d'une calomnie, je cite, sortie du même creuset où fut forgée la phrase démentie par l'Europe entière, à savoir, les Italiens ne se battent pas. Alors, l'année 1859 marque pour les mythes garibaldiens la fin d'une exclusion. Cette fois-ci, contre les Autrichiens, on vit se battre dans le même camp les Italiens, les Français et les volontaires. Les camps étaient parfaitement définis. Dans ces cas, les volontaires combattaient en tant que corps reconnu, encadrés dans l'armée régulière piémontaise. Bref, nous nous trouvons devant une guerre populaire au sein d'une guerre royale. Garibaldi fut promu général et c'est alors que les volontaires devint soldats. Les deux aspects des volontaires et des soldats se sudèrent dans la personne de Garibaldi qu'une presse piémontaise de l'époque présentait en uniforme bleu, celui des chasseurs des Alpes. Vous pouvez le voir ici dans le livre de Frétinier, hein. Il est, ce n'est pas Garibaldi, en vérité ça c'est une espèce de militaire régulier avec son uniforme, sans la chemise russe, c'est invisible, hein, c'est pas Garibaldi, mais on cherche de les contenir à l'intérieur de cet uniforme, les chasseurs des Alpes. L'un des corps de volontaires mobilisés, uniforme où s'estompe le symbole de la chemise rouge. Les batailles sanglantes de Solferino et de Saint-Marty, comme l'on sait, devait déterminer la victoire sur les Autrichiens et les débuts de l'unité italienne. Exagérant la part de l'armée sarde, la rhétorique de la maison de Savoie devait en faire une double victoire. En vérité, c'est le mythe de Garibaldi qui en ressortit renforcé, au point que pas même Cavour n'ait pu le dissimuler. Et il est singulier que de côté des Alpes, les personnages de Garibaldi soient accueillis par le peuple à peu près de la même façon. Si l'on en croit les témoignages de l'écrivain Georges Sand, évoqué par Maurice Agulon, les montagnards du massif central accrochés au mur de leur maison des images de Garibaldi, ces vieux soldats, ces bergères voulaient obtenir de l'écrivain des histoires sur la bataille de Solferino, bataille considérée épique à laquelle ils s'associaient les personnages de Garibaldi. Pour ces vieux soldats, dit Maurice Agulon, pour ces vieux soldats, revenus dans leur montagne, Garibaldi était un héros exotique qui avait le mérite d'être dans le même camp de l'armée française. Son portrait était la preuve que la pénétration du thème militaire et patriotique dans l'imagerie populaire commençait à se réaliser. Le monde populaire français fit même davantage, comme il le fit souvent quand il aime vraiment quelqu'un. Il l'adopta. Lorsque la population put manifester sa sympathie pour les héros de l'indépendance italienne, selon les Charivari journal de gauche, on les tient pour français du jour où il s'est si vaillamment battu à Varese à l'ombre du drapeau tricolore. Pour les Italiens, le corps des chasseurs des Alpes était formé de volontaires en chemise bleue et en chemise rouge. En effet, le peintre garibaldien Induno se souciait d'en corriger l'image officielle. Il mettait les chemises rouges, même bien plus que lui le faisaient les gens de Varese et de Combes qui accueillaient avec enthousiasme le libérateur garibaldien. Garibaldi était le soldat volontaire de l'indépendance, et c'est justement de ces régions qu'à peine un an plus tard devait arriver la grande partie du contingent des mille. Je vous remercie pour votre attention.
Grazie.